Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Frédéric Isoletta, cofondateur de l'Orchestre des Colibris, un ensemble inédit mêlant enfants sourds, enfants entendants et musiciens professionnels. Frédéric Isoletta est professeur au Conservatoire de Marseille, où s'est formé cet orchestre atypique et novateur, à la fois projet inclusif, artistique et politique, à la croisée de l'éducation et de la science. L'Orchestre des Colibris a également donné lieu à un documentaire réalisé par Daniela Lansuisi et produit par Maud Hinn pour Drôle de Drame, nommé « La musique sourde ». Et dont nous empruntons le titre pour cette émission. Le documentaire est disponible sur France TV avec le soutien du CNC dans le cadre de l'appel à projets Les uns et les autres.
Grammaire fantôme.
On se trouve aujourd'hui au Conservatoire de Marseille. Alors c'est un bâtiment très ancien.
C'est ça. Alors c'était le bâtiment des Beaux-Arts avant. Donc, il date de la deuxième partie du 19e siècle. Ouais. C'est Esperandieu qui l'a construit, un grand architecte de cette période un peu qualifiée d'éclectisme, d'historicisme.
Donc là, il y a des enfants un peu partout qui font la pause. On se met à l'ombre.
Ouais.
Ou là, peut-être, là, au fond.
Là-bas, au fond.
Ouais. Ça, c'est vos étudiants.
Des petits élèves, ouais, d'orchestre, que j'ai en orchestre, pour certains, ou certaines.
Alors, on a regardé les documents qu'on nous a envoyés à un ami. On a pu découvrir...
Le film, c'est ça ?
Ouais. Alors, racontez-nous un peu comment vous êtes venu à ce très beau projet qui est singulier.
C'est un projet assez rare, hein, ça c'est clair, assez original. En fait, alors moi je suis musicien, hein, je joue du piano, je joue de l'orgue et puis je fais beaucoup d'accompagnement au piano. Je travaille beaucoup dans le domaine lyrique et puis ici je dirige les orchestres. Voilà. Et je donne aussi quelques cours à la fac. L'histoire de la musique, musique et cinéma, ce genre de choses. Et il s'avère que mon fils, qui a maintenant 13 ans, Alexandre, est né sourd profond. Voilà. Donc, il s'est ensuite... Il a été opéré assez rapidement, mais ça ne se fait pas la première année, pour pouvoir porter un implant cochléaire. Et l'implant cochléaire remplace un peu la cochlée qui est défaillante, ce qui veut dire que ça lui permet d'entendre et de parler ensuite. C'est un peu comme si on donnait la vue à des aveugles, même si pour ce qui est de l'implant, il faut des années de travail, orthophonie et un tas de choses, beaucoup de travail pour que ça marche. Et ça marche pas chez tout le monde. C'est vraiment très... ça dépend de plein de choses. Il y a des cerveaux qui acceptent bien l'implant, il y en a qui l'acceptent moins, il y a des types de surdité où on ne peut pas implanter, enfin voilà. Donc en tout cas aujourd'hui mon fils il parle, il entend sans problème, mais pas comme nous évidemment, parce que si nous on entendait ce qu'il entend lui, on pourrait sûrement pas dire un mot. Donc petit à petit, quand il était petit, je lui ai fait faire de la musique simplement par les vibrations, en le mettant quand il était bébé sur le piano, enfin des choses comme ça. Et puis j'avais beaucoup de répétitions à la maison avec des chanteurs, des chanteuses, des musiciens, des musiciennes. Et puis il y a des instruments qui l'avaient intéressé, il était tout petit, hein, il avait 2-3 ans, 3-4 ans, comme le violon notamment. Et puis... parce que je répétais assez souvent avec une violoniste, et puis un jour, je fais un concert avec une violoncelliste, donc elle vient répéter à la maison. Et Alexandre s'est emparé du violoncelle, en gros, contre lui. Il était trop petit pour faire du... par rapport à ce violoncelle, mais avec ses vibrations, tout ça. Et puis, il s'avère que le violoncelle est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine. Vraiment, ça, c'est autre chose. Puis, c'est un instrument qui est gros, qu'on a contre soi, qui vibre beaucoup, enfin, voilà. Et ensuite... il a pris des cours de violoncelle avec Marine Rodalec, cette prof, qui d'ailleurs est toujours sa prof de violoncelle ici maintenant. Elle n'était pas au conservatoire à l'époque. Hein. Et il a commencé le violoncelle comme ça, avec un cahier des charges très, très libre, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes attentes, les mêmes exigences. Mais il y a sûrement des choses possibles. On a vu que ça pouvait marcher, que ça lui faisait un bien fou. Il est allé chez Suzuki aussi, donc dans cette école où il n'y a que des violoncelles à Marseille, qui est super parce que aussi ils jouent tout de suite en orchestre, tous ensemble. Et c'est. Il y a quelque chose de fraternel par rapport à ça, il y a quelque chose du partage intergénérationnel, etc. Et puis petit à petit, moi je me suis renseigné auprès de chercheurs. De chercheurs sur l'implant, sur la surdité, le cerveau, le cognitif, tout ça, orthophonistes, médecins, pour savoir ce qu'on entendait vraiment. J'ai aussi servi de cobaye à l'hôpital, parce que je suis musicien par ailleurs, donc ça les intéressait sur plein de choses. Et puis j'ai assisté à des colloques, à des très, très, très poussés, très précis, c'était super intéressant, réservé à des professionnels, mais moi j'ai pu avoir le droit d'y aller, sur l'implant, sur le cerveau, sur la musique, sur la surdité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, parce qu'il y a énormément de correspondance entre la musique et le langage. Si on ne joue pas de la musique contemporaine, on va dire, les phrases, la construction, les respirations, ils n'ont jamais fait autant de bruit depuis qu'on est en train de parler. Voilà. La musique, les phrases, mais bon, qui s'amuse, c'est bien.
Enfin, si,
mais
c'est génial.
S'ils font de la musique et qu'ils ne s'amusent pas, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et les phrases, l'harmonie, le langage, la carrure, les questions, les réponses, je ne sais pas quoi, c'est de la musique aussi. Et donc, j'ai eu cette idée un peu folle de monter un orchestre d'enfants sourds, sans aucune garantie, parce que je me suis dit, si personne ne l'a fait au monde, c'est que ça ne doit pas marcher. J'en ai parlé à Michael Picon, qui est un chanteur lyrique, mais qui s'occupe aussi du CALMS, qui est le collectif des artistes lyriques et musiciens pour la solidarité, où ils font beaucoup d'actions caritatives, et qui m'a aidé on a monté ce projet ensemble, on l'a ficelé, tout ça, et on l'a présenté au Conservatoire de Marseille, dans lequel j'enseignais déjà, et le Conservatoire Pierre Barbizet, où je dirige les orchestres, est donc devenu partenaire, je ne sais pas comment on peut dire, mais on est plusieurs sur ce coup-là, disons. Les répétitions ont lieu ici. Les enfants prennent un cours assez court d'instruments avec un professeur volontaire qui a été sensibilisé à ce que c'est qu'un implant, à tout ça. Cours de FM aussi. Et puis, ils font l'orchestre avec moi. Et le système qu'on a mis en place avec Michael, c'est que chaque enfant sourd a un binôme qu'on appelle jumeau-jumelle. Un enfant du même âge à peu près qui joue le même instrument et qui n'est pas sourd et qui est un peu plus avancé. Et chaque enfant sourd a aussi un parrain ou une marraine qui est un musicien professionnel. Alors là, c'est plutôt des musiciens de l'Opéra de Marseille qui viennent une fois de temps en temps, enfin de manière régulière, et qui font office de tuteur, de tout ça. Donc ça fait un trio. On a commencé, on était 3, ça faisait 9 sur scène. Cette année, on est 5, ça fait 15. On a ouvert un petit orchestre aussi, Colibri, autour de l'étang de Berre. On espère faire pareil à Aix et dans d'autres endroits, voire à Montpellier d'ailleurs. Voilà, c'est quelque chose qui est dans nos têtes. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que j'écris des partitions très spécifiques, parce que le problème, c'est qu'évidemment, les partitions n'existent pas. Donc, je les compose moi-même par rapport à un cahier des charges bien précis que j'ai établi avec des chercheurs ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Des choses plutôt rythmiques, moins mélodiques. Pas trop de demi-ton, parce que avec un implant, on n'est pas censé entendre les demi-tons. Vous voyez, donc... Ah oui, c'est comme si on jouait avec des moufles sur un clavier. Ah non, c'est vrai. Donc, commencer par des instruments à cordes comme le violoncelle, le violon, l'alto, c'est quasi du suicide, on pourrait dire, parce que, mais en même temps, moi, c'est ce que je voulais faire, parce qu'il va falloir trouver les notes soi-même, par la vibration, par autre chose. Mais en même temps, je voulais faire un orchestre. Si je les mets sur un piano, c'est dur aussi, mais quelque part, c'est plus facile, parce que les notes, elles sont là et elles sont justes. Et elles sont dans l'ordre. Voilà. Et puis moi, mon but, c'était... Je voulais absolument qu'ils commencent à jouer ensemble dès le début, même en étant débutants. Donc ça paraît un peu fou parce qu'on ne fait pas ça dans le conservatoire pour des enfants qui ne sont pas sourds. Moi, je voulais le faire avec des enfants sourds. Ouais, et c'est dommage, quoi. Moi, je voulais le faire avec des enfants sourds qui jouent ensemble dès le début parce qu'il faut absolument qu'il y ait cette notion d'échange, de partage, de bienveillance, de regard. Enfin, vous voyez, les enfants sourds, ils lisent beaucoup sur les lèvres, lecture labiale. Même s'ils font que des cordes à vide au début, même en pids, et que c'est rythmique, ils jouent avec les autres, et rapidement, ils vont comprendre comment ça marche. Qu'il y a un chef, qu'on écoute machin, je fais des partitions, questions-réponses, des choses comme ça. Si je prends la partie de violon, par exemple, l'enfant sourd, il a sa partie, l'enfant jumeau-jumelle, il a une partie un peu plus dure, et l'adulte, il a une partie beaucoup plus dure, mais tout va ensemble. C'est un Tetris parce que quand on compose ça, parce qu'il faut que je tienne compte de ce que sont en train d'apprendre les enfants en partant de rien. Et puis petit à petit, il y a les cordes, l'archer, voilà, tu vois de quoi je parle, la première position, etc. Avec un tas de paramètres pour que ça fonctionne. Et résultat, ça a marché contre toute attente parce que c'est très expérimental. Moi, j'étais le premier surpris, hein, mais ils ont pu faire un petit concert au bout de 2 mois pour un forum Alex qui s'appelait Sourd et Connecté, autour de l'implant et tout ce qu'on peut faire. Et puis, on a joué après rapidement devant tous les professionnels du secteur, en fait, parce qu'on a eu la chance, ils se réunissaient à Marseille et il y a un rendez-vous tous les 2 ans autour de l'implant cochléaire. Et là, ils nous ont entendus, ils étaient assez époustouflés. Il y a même le professeur qui a opéré mon fils qui m'a dit franchement bravo, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'y croyais pas. Parce qu'en fait, normalement, c'est pas possible sur le papier. C'est déjà dur de parler, alors jouer de la musique et en plus du violon, et puis surtout, ça leur fait un bien fou, déjà humainement, ça leur fait du bien en psychomotricité, parce que l'air de rien, tenir un archer, regarder ce qui se passe, écouter, ça leur fait du bien au point de vue social. Écouter, regarder les autres, savoir quand on doit parler, ça leur donne de la confiance. Ils sont fiers parce qu'ils sont applaudis. C'est la première fois qu'ils sont applaudis parce qu'ils ont un rendez-vous par semaine qui n'est pas médical. Donc rien que ça. Et puis on fait rentrer le handicap dans un conservatoire et pas n'importe quel handicap. Sourd, c'est tabou. Enfin, dire c'est dans un conservatoire, il y a un truc. Voilà. Et puis, ce qui est super aussi, ça c'est difficilement quantifiable, c'est que ça leur fait faire des progrès dans le langage. C'est-à-dire que plus ils jouent de la musique, mieux ils parlent, mieux ils entendent, mieux ils... Voilà. Et ça c'est génial, parce que moi je ne savais pas ce que ça allait donner, mais ça rend service à tous ces enfants. Moi j'ai essayé d'appliquer un petit peu ma gestuelle de direction avec des signes de langue des signes. C'est tout bête, mais des choses qui leur parlent un peu. Et de faire des choses, c'est très expérimental, j'essaie des choses dans le placement aussi, parce que vu que ça n'existait pas, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, mais il était hors de question de leur faire apprendre le violon dans un coin tout seul, dans une salle, ça leur aurait fait du bien, c'est clair. Mais le but, c'était qu'ils soient ensemble. Et d'ailleurs, l'hôpital de la Timone, avec Toulouse aussi, ils sont en train de lancer un projet de recherche scientifique sur cet orchestre, parce que ça les intéresse. Ça bouscule un peu des idées reçues, enfin pas des idées reçues, mais des données scientifiques, on va dire. Et là, ils vont lancer un projet où nous, on va être associés. Ils vont prendre des mesures, ils vont, enfin voilà, choses comme ça.
Merci beaucoup, Frédéric. On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvel invité. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission Panadialistique.